XIIIe siècle, le village de Calmeta se forme au pied de la colline de Saint-Leu, autour d'une léproserie. Ce fait est attesté par un acte de 1237 de Bouchard VI de Montmorency. La léproserie reçoit les malades de 11 villages de la vallée. Il s'agit de la seconde implantation historique après celle de Lemont en lisière de forêt au XIIe siècle. Leur rapprochement géographique donnera naissance au Saint-Leu d'aujourd'hui. Jean de Saint-Leu, chancelier de la cathédrale de Meaux, devient, au XIVe siècle, sous le nom de Jean de la Chaumette, prieur, puis abbé de l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris. Il fonde à proximité de Calmeta, en 1333, une chapelle dédiée à Sainte-Geneviève, dont on garde encore, à proximité de la place de la Forge, la trace du cœur et de la charpente en bois d'origine. Le fief de la Maladrerie, l'ancienne léproserie transformée en hôpital général, est affilié à l'hôpital d'Argenteuil. Après sa disparition, au XVIe siècle, il ne reste sur les terres de l'ancienne léproserie qu'une maison-dieu associée au vocable de Sainte-Marguerite et qui devient maison de plaisance sous le nom, dérivé de Calmeta, de La Chaumette. Au XVIIIe siècle, La Chaumette se transforme en coquet-château qui devient, à partir de 1806, la propriété du comte Louis-Étienne Regnault de Saint-Jean d'Angély, 1760-1819, conseiller d'État, auteur de la proclamation du 18 Brumaire, puis ministre d'État à la famille impériale et surnommé l'éminence grise de Napoléon Ier. C'est lui qui avait la charge de rédiger et de consigner tous les actes d'état civil touchant les membres de la famille de l'empereur. Présent aux Tuileries le 15 décembre 1809, lors de la présentation, devant toute la famille réunie, de l'acte officiel de séparation de l'empereur et de son épouse Joséphine, il la remplace pour lire la fin de la déclaration par laquelle elle donnait son consentement et dont elle ne peut, troublée par l'émotion, achever la lecture. C'est en 1795, dans les salons du petit château de la Chaumette, propriété de sa tante, qu'avait été célébré le mariage de Regnault avec la resplendissante Laure de Bonneuil, que Chateaubriand citera dans ses mémoires d'outre-tombe comme l'une des femmes les plus distinguées de l'Empire. La mère de cette dernière, Michel, reconvertie dans l'espionnage, est soupçonnée d'avoir, lorsqu'il vint à Paris en septembre 1803, permis à Georges Cadoudal, suivi et filé depuis son arrivée en France, de séjourner en secret d'abord à Saint-Leu, puis à Paris, dans l'appartement qu'elle possédait. Les propriétaires se succèdent ensuite au XIXe siècle et en 1869, le propriétaire, M. Anselme-Henri Boquet, dont on peut encore lire les initiales sur la belle grille de la rue de la Forge, fit démolir l'ancienne maison, détruite dans un incendie, et la reconstruit sur le modèle du précédent. La première pierre porte l'inscription suivante. Le 18 février 1869, Jeanne Boquet, assistée de ses pères, mères, frères et sœurs, a posé sous la protection de la Sainte Vierge la première pierre du château de la Chaumette. Du 19 octobre 1870 au 10 février 1871, les Prussiens occupent le domaine. De 1871 à 1940, le château redevient propriété bourgeoise, occupée par les descendants de M. Anselme-Henri Boquet. De 1940 à 1944, les Allemands occupent à nouveau le site. En 1947, la vaste propriété est cédée à la Congrégation des Sœurs Maristes qui y transfère l'école-collège Le Rosaire, située à Saint-Prix depuis 1939. En 1969, la direction devient laïque et en 1991, les Pères Maristes, à la demande des Sœurs Maristes, prennent la responsabilité de la tutelle. Aujourd'hui, en dépit de la disparition de la rivière et des pièces d'eau, l'établissement d'enseignement offre à ses élèves le cadre merveilleux du vaste parc d'origine et des conditions d'études des plus agréables. Les plus anciens évoquent le pigeonnier de la Chaumette, dans le sous-sol duquel débute un vaste souterrain conduisant à la chapelle Sainte-Geneviève et au-delà même jusqu'à l'emplacement de l'ancien château du Haut, démoli par les Bonaparte à leur arrivée en 1804. Qu'en est-il? Et n'est-ce pas dans ces profondeurs ignorées que se trouve enterré le trésor caché de Saint-Leu? Ce fameux trésor qu'aurait abandonné un émigré russe à la veille de la Révolution et dont Madame de Genlis se fait l'écho dans ses mémoires.